Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 23h à Gaza.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine. Bonsoir à tous.
Pas de bombardement ni de violence aujourd'hui dans la bande de Gaza. La première journée de trêve, de cessez-le-feu, s'est déroulée dans le calme. La vie a doucement repris son cours.
En Ukraine, la situation sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia inquiète. Des missiles sont tombés près d'un des réacteurs ces derniers jours. Russes et Ukrainiens se renvoient la balle.
Actualité militaire également en Asie. La Chine poursuit finalement ses exercices militaires près de Taïwan. Le Japon et les Occidentaux ont pourtant multiplié les appels au calme.
Enfin, nous irons à Cuba où un incendie est toujours hors de contrôle. Un dépôt de pétrole a pris feu il y a 3 jours à une centaine de kilomètres de la Havane.
Le journal en français facile.
Les Palestiniens de la bande de Gaza se sont couchés dans le calme ce soir.
Oui, la première journée de cessez-le-feu s'est déroulée sans incident. La vie a doucement repris son cours dans l'enclave palestinienne. Israël a rouvert la frontière. Les marchandises ont donc pu à nouveau circuler. La seule centrale électrique de la zone a aussi pu redémarrer. La trêve, l'arrêt des combats a été décidé hier soir après plusieurs jours de bombardements entre Israël et le djihad islamique. Ces violences ont fait plusieurs dizaines de morts. Ce retour au calme est donc une bouffée d'oxygène pour les habitants. Correspondance de Michel Paul.
Pour les Gazaouis, après pratiquement une semaine de bouclage hermétique, le plus important, c'est la réouverture des points de passage. Les camions-citernes assurent à nouveau depuis ce matin le ravitaillement de la centrale électrique de l'enclave palestinienne dont les réservoirs étaient à sec. Retour à la normale également du côté israélien dans les kibboutzim et autres villages frontaliers qui s'étaient en partie vidés de leurs habitants. La défense passive lève progressivement les restrictions qui avaient été imposées dans ce secteur. Mais si la trêve semble tenir à ce stade, Israël annonce qu'il n'a pas l'intention de libérer les responsables du djihad islamique arrêté en Cisjordanie. La direction de l'organisation à Gaza avait annoncé que cette mesure était incluse dans l'accord de cessez-le-feu. Ce matin et la nuit dernière, l'armée israélienne a d'ailleurs procédé à de nouvelles arrestations dans le secteur de Jenin. Toujours en Cisjordanie, les militaires ont démoli les maisons des auteurs de l'attentat à la hache dans la ville israélienne d'Elad le 5 mai dernier. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le premier navire transportant des céréales ukrainiennes n'accostera finalement peut-être pas au Liban.
Effectivement, selon l'ambassade d'Ukraine à Beyrouth, l'acheteur de la cargaison refuse de récupérer les 26 000 tonnes de céréales contenues dans le bateau. Il met en avant un retard de 5 mois dans la livraison. Le bateau va donc devoir trouver une autre destination et probablement un autre acheteur. Il se trouve actuellement au large des côtes turques. Il devait initialement arriver à Tripoli, dans le nord du Liban. Ce navire était parti du port d'Odessa, en Ukraine, le 1er août.
Et pendant ce temps, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia est au cœur des préoccupations.
Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle se trouve dans le sud de l'Ukraine, mais elle est actuellement occupée par l'armée russe. La semaine dernière, des bombardements ont eu lieu près d'un réacteur. Depuis, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces tirs de missiles. Martin Chabal.
Les Russes accusent l'Ukraine de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijjia qu'ils contrôlent depuis le mois de mars. Ils alertent sur les possibles répercussions qui toucheraient toute l'Europe si les frappes atteignaient les réacteurs de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ces bombardements font planer l'ombre d'une potentielle catastrophe de grande ampleur. Les Russes ont tout de même affirmé que les missiles de la fin de semaine avaient endommagé une ligne de tension, ce qui laisserait deux régions ukrainiennes sans électricité. Pour l'instant, la Russie accuse l'Ukraine l'Ukraine et l'Ukraine accuse la Russie, mais aucune source indépendante ne peut confirmer l'origine de ces frappes. De son côté, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a surtout alerté sur le caractère suicidaire de ces attaques, sans répondre à la question de qui a tiré sur qui. Afin d'éviter une situation critique, le patron de l'agence nucléaire ukrainienne a appelé la communauté internationale à déloger les occupants russes et à créer une zone démilitarisée autour de la centrale. L'agence affirme également que la Russie aurait posé des mines dans le secteur, mais encore une fois, cette déclaration n'a pas encore pu être vérifiée.
Explication de Martin Chabal, et c'est une nouvelle conséquence de cette guerre. Les Russes ne peuvent plus visiter le château de Vincennes, près de Paris, en France. L'information est donnée par l'agence France Presse. Le château de Vincennes abrite notamment des archives du ministère français des armées.
Et puis dans l'actualité, la Chine qui prolonge ses manœuvres militaires près de Taïwan.
La démonstration de force de Pékin devait s'arrêter hier, mais finalement, la Chine poursuit ses opérations, toujours pour protester contre la visite de la numéro 3 américaine à Taïwan. Pour rappel, Nancy Pelosi a passé moins de 24 heures sur l'île la semaine dernière. On fait le point sur la situation avec Zifan Liu.
Le commandement chinois a confirmé la poursuite d'exercices interarmés dans les airs et en mer autour de Taïwan. Cette annonce intervient après une première phase initiale de 4 jours d'opération qui visait à simuler un blocus maritime et aérien de l'île, impliquant avions de chasse, navires de guerre, drones et missiles balistiques. Selon la propagande communiste, ces opérations sont les plus importantes jamais menées par l'armée chinoise dans la région. De leur côté, les autorités taïwanaises ont également annoncé la tenue d'exercices de défense à balles réelles. Soldats et obusiers vont être déployés cette semaine pour simuler une invasion de l'île par la Chine. Les dirigeants locaux réfutent toute réaction à la démonstration de force de l'armée chinoise, mais force est de constater que la pression chinoise ne cesse d'augmenter dans la région, et ce malgré les critiques internationales. Washington a dénoncé la disproportion totale des manœuvres chinoises. En face, Pékin défend une réaction justifiée et rejette la faute sur les États-Unis accusés d'être les fauteurs de troubles.
Et les fauteurs de troubles, ce sont des personnes qui provoquent un désordre ou une guerre, par exemple.
Le journal en français facile.
Les États-Unis tentent de contrer l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique.
Oui, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, effectue actuellement une tournée sur le continent. Il est depuis hier à Pretoria, en Afrique du Sud. Il dit vouloir un véritable partenariat avec l'Afrique. Anthony Blinken se rendra demain en République démocratique du Congo, puis au Rwanda. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, profitera d'ailleurs de cette visite pour évoquer les tensions entre son pays et Kigali.
À Cuba, les pompiers se débattent toujours contre le feu.
Un gigantesque incendie dure depuis vendredi sur un dépôt de pétrole de l'île. Selon les autorités, un troisième réservoir a été détruit aujourd'hui par les flammes. Ça se passe précisément dans la zone industrielle de Matanzas, à 100 km de la capitale, La Havane. Le bilan provisoire est d'au moins un mort, 16 pompiers disparus et plus de 120 blessés. Cet incendie survient alors que l'île manque déjà de carburant, notamment pour approvisionner ses centrales électriques. Justine Fontaine.
Un immense nuage de fumée noire aux reflets rouges s'élevait encore ce lundi au-dessus de Matanzas. Le feu a été provoqué par la foudre qui a frappé un réservoir vendredi soir malgré le système de paratonnerre de ce grand dépôt pétrolier. Le gouvernement cubain a reçu l'aide du Mexique et du Venezuela pour tenter d'éteindre l'incendie. Et dimanche, le président Miguel Díaz-Canel s'est rendu à Matanzas pour superviser les opérations des pompiers, précise la presse officielle cubaine. Ce gigantesque incendie survient alors que l'île manque déjà de carburant depuis des mois et n'a pas assez de pétrole pour alimenter ses centrales électriques vieillissantes. Nous allons devoir continuer d'acheter du carburant avec nos moyens limités pour garantir un minimum de production d'énergie, a précisé le gouverneur de la région, Mario Sabines, ce lundi. Les coupures d'électricité répétées à Cuba ont provoqué des manifestations encore ce week-end dans la ville de Cienfuegos et dans plusieurs communes du pays depuis le début de l'été. L'an dernier, c'était déjà l'une des raisons du plus grand mouvement de colère sociale sur l'île depuis la révolution de 1959.
Explication signée Justine Fontaine. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. On en profite avec Sylvie Berruet pour adresser nos salutations à un de nos fidèles auditeurs, Junior Bokama, qui nous écoute à Kinshasa et qui nous envoie régulièrement ses remerciements et ses encouragements. Très belle soirée à lui et à vous sur la Radio du Monde.